Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Pose la question des attaches du pays. La réélection du président tchèque Miloš Zeman pose la question des attaches du pays avec l'Union européenne. Nous serons à Prague dans un instant. Plus de 100 morts et des centaines de blessés après l'attentat à l'ambulance piégée perpétré ce matin à Kaboul. Attentat revendiqué par les talibans, commentaire du chercheur Karim Pakzad. Nous prendrons la mesure de la colère des habitants de la commune de Saint-Aignan qui borde l'aéroport Loire-Atlantique à la faveur d'un déplacement de la ministre des Transports. Enfin, Stéphane Robert nous dira à quel point la composition des nouvelles instances dirigeantes de Les Républicains ne plaide pas pour le rassemblement de cette famille politique. Et si la Tchéquie s'engageait sur la pente herbeuse du Tchexit, du repli sur soi, du populisme à haute dose et de la haine de l'autre, le président Miloš Zeman n'a-t-il pas accusé son adversaire Jiří Drahoš d'avoir une attitude trop bienveillante à l'égard des réfugiés? Zeman a manifestement remporté le scrutin. Bonsoir Alexis Rosenzweig.
Bonsoir.
Alexis, quels sont les derniers résultats et quelles premières interprétations osées?
Alors, les résultats définitifs viennent de tomber et c'est une victoire plutôt nette pour Miloš Zeman qui a remporté plus de 51% des voix et fait de très bons scores dans les zones rurales du pays notamment. Et c'est vrai que vous le disiez, malgré sa santé fragile, le vétéran de la politique tchèque avait tout misé sur une campagne plutôt agressive ces derniers jours en mettant en avant sa longue expérience au sommet de l'État et aussi son rejet de l'immigration. L'immigration, un sujet électoralement porteur ici, bien que le pays ne soit pas touché par la crise migratoire. Zeman était d'ailleurs soutenu par le parti d'extrême droite islamophobe, allié du Front National ici. Son challenger Jiří Drahoš, novice en politique, n'a finalement pas réussi à créer la surprise attendue, même s'il a remporté la mise dans presque toutes les grandes villes. Il était inconnu du public il y a encore un an. Il a dénoncé une campagne de désinformation contre sa personne, mais un certain manque de charisme lui était reproché, même chez ses propres électeurs.
Alexis, à quelles conséquences attendre politiquement et pour ce qui est de, tout simplement de la santé politique du pays?
Eh bien, d'abord, l'orientation de la politique étrangère du pays a été l'un des enjeux de la campagne électorale. Avec un Miloš Zeman connu pour ses positions favorables au Kremlin, il est notamment pour l'arrêt des sanctions contre la Russie, tandis que son challenger Drahoš était sur une ligne pro-européenne et atlantiste, il disait vouloir réaffirmer la position de la République tchèque dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que les compétences du président tchèque sont limitées en temps normal, en matière de politique étrangère aussi. Mais là, Miloš Zeman, pour le début de son deuxième et dernier mandat, eh bien, il va avoir une certaine marge de manœuvre dans les prochains mois en raison de l'instabilité du gouvernement en ce moment à Prague et des problèmes politiques et judiciaires du Premier ministre, le milliardaire Andrei Babiš. Alors, Miloš Zeman, qui est un pragmatique, va être à la baguette. Et une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas bouder son plaisir.
Merci à vous, Alexis Rosenzweig, en direct de Prague. Intensification des débrayages la semaine prochaine dans l'industrie allemande après l'échec des négociations sur les salaires et le temps de travail. Le puissant syndicat IG Metall menace d'appeler à une grève dure. À Cologne, c'est dans la violence que la police a dispersé une manifestation de 15 000 Kurdes venus condamner l'offensive turque au nord de la Syrie, entre autres dans le canton d'Afrine. Il y a quelques heures, la Turquie a demandé aux États-Unis de retirer, je cite, immédiatement ses troupes en poste dans la ville de Manbij. Un véritable massacre selon les humanitaires sur place. Le bilan de l'attentat à l'ambulance piégée de ce matin est désormais d'au moins 100 morts et plus de 150 blessés. Attentat revendiqué par les talibans qui ont fait exploser le véhicule dans l'un des quartiers les plus animés de Kaboul. Quatrième attentat dans la capitale depuis le début de l'année. Deux revendiqués par l'État islamique, deux autres par les talibans, très officiellement. Les talibans protestent contre l'objectif américain d'envoyer là-bas 3000 soldats supplémentaires. Mais quelle emprise leur prêter ? Élément de réponse avec Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Afghanistan.
On ne peut vraiment pas donner un chiffre en ce qui concerne leur nombre parce que, par définition, les talibans représentent un mouvement asymétrique, un mouvement où il n'y a pas vraiment des combattants professionnels, si vous voulez, engagés. Et ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont engagés aux côtés des talibans, qui commettent des attentats ou des attaques contre des casernes, par exemple, gouvernementales la nuit, mais que dans la journée, ils se coupent coupe de leur terre. Il y a aussi des gens de cette dimension. Il y a aussi des combattants étrangers, pakistanais ou autres, qui rentrent en Afghanistan pour aider les talibans. Il y a même des combattants venus de la Syrie récemment, y compris des Français, qui, dans le nord de l'Afghanistan, ils se sont rejoints les rangs de Daesh. Donc, on ne peut pas vraiment donner des chiffres, mais on peut dire qu'aujourd'hui, les talibans, selon les chiffres donnés par les Américains, les talibans contrôlent directement ou indirectement la moitié de l'Afghanistan. Voilà. Donc, leur zone d'influence s'étend de l'est au sud et au sud-ouest avec des poches d'influence extrêmement importantes dans le centre et dans le nord de l'Afghanistan.
Des propos recueillis par Anne Fauquemberg. Poignardée et frappée à coups de bâton devant son domicile dans la banlieue du Caire, Hicham Jenena est membre de l'équipe de campagne de l'ex-chef d'état-major de l'armée, Sami Anan, qui ambitionnait de se présenter au futur présidentiel jusqu'à son arrestation la semaine dernière. Tous les rivaux putatifs du sortant Abdel Fattah Sissi ont été écartés du scrutin. Le Mali, de nouveau déstabilisé, deux jours après la mort de 26 civils dans l'explosion d'une mine dans le centre du pays. Au moins 14 soldats tués dans l'attaque de leur camp dans le nord. L'armée évoque une action terroriste. En France, quand les territoires défendent infrastructures et qualité de vie, 800 manifestants ont arpenté les rues de Saint-Chamond dans la Loire pour le maintien de la maternité menacée de fermeture. L'hôpital ne parvient pas à recruter des gynécologues à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Ils étaient près de 1000 à réserver un colérique comité d'accueil à la ministre des Transports venue rencontrer le maire de cette commune en première ligne dans le cadre de l'agrandissement de l'aéroport Loire-Atlantique. Projet préféré à la construction de celui de Notre-Dame-des-Landes. Parmi les participants à ce rassemblement, Geneviève, retraitée, installée depuis toujours à Saint-Aignan.
C'est de la colère, bah oui, de la colère, de la peur du futur, parce que Saint-Aignan va grandir, il y aura de plus en plus d'avions, ça va être impossible à vivre. Vivre tous les jours avec matin et soir des avions tout le temps sur la tête, c'est trop lourd pour moi, et ça crée un stress qui me fait trembler parfois. Et tous les Aignanais, c'est pareil. On est démunis, on vote, et ça sert à quoi notre vote? À rien. Ils le mettent à la poubelle, ils le piétinent, ils marchent dessus. Mais je continuerai à mourir là, tant pis, je mourrai sur place. Pour moi, ma vie, elle est ici, elle est ancrée ici. Mes ancêtres ont habité ici. On a racheté cette maison à des cousins éloignés.
Vous ne la revendrez jamais?
Non, jamais.
Voilà des propos recueillis par Audrey Dumain. Une vingtaine de prisons bloquées ce jour par des surveillants insatisfaits par les propositions du gouvernement, favorablement accueillies par la direction du syndicat majoritaire UFAP-UNSA. La base de la CGT et de FO est invitée à réfléchir à d'autres formes d'action la semaine prochaine. 4 candidatures au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste retenues cet après-midi par un conseil national à huis clos. Celle de Stéphane Le Foll, Luc Carvounas, Olivier Faure et Emmanuel Morel. Cette ambiance que vous entendez, c'est celle à l'issue d'un autre conseil national, celui d'une autre formation en délicatesse, conseil national lui ouvert au public, qui a conduit au renouvellement profond renouvellement de son bureau politique, celui de Les Républicains. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Mathieu.
Stéphane, grincement de dents, amertume, Laurent Wauquiez n'a pas donné dans la souplesse et s'est raté, Stéphane, pour le rassemblement de la famille politique.
Oui, certes, Les Républicains ont élu leur président et se sont trouvés un nouveau chef, mais Laurent Wauquiez est encore loin de faire l'unanimité et de rassembler l'ensemble de ce qu'il appelle sa famille politique. Tout à l'heure, quand Valérie Pécresse est arrivée, elle était escortée de militants qui criaient son nom. Jean Leonetti, qui à ce moment-là discourait au micro sur l'estrade, a été obligé de s'arrêter. Il y a eu des sifflets dans la salle et c'est Laurent Wauquiez lui-même qui a dû calmer tout le monde en souhaitant la bienvenue à Valérie Pécresse et en lui demandant de s'asseoir. Quelques minutes plus tard, Valérie Pécresse a pris la parole. Elle en a appelé au respect du pluralisme, théorisant le fait qu'il y avait aujourd'hui deux droites, l'une plus conservatrice, l'autre plus progressiste. On a entendu à ce moment-là du brouhaha et encore une fois des sifflets dans la salle. Et ces deux droites, a-t-elle poursuivi sans se laisser impressionner, il va falloir les réconcilier. Aussitôt après, Laurent Wauquiez est monté sur scène pour rectifier. Non, Valérie a-t-il corrigé, il n'y a pas de droite, il y en a une seule. Et un peu plus tard, dans son discours, Wauquiez a expliqué qu'il ne tolérerait pas les guerres de chapelle et les querelles de personnes. Mais à ce moment-là, Valérie Pécresse était déjà repartie. Elle a montré d'un côté qu'il faudra compter avec elle et de l'autre que les Républicains sont loin très loin d'être unis.
Merci à vous Stéphane Robert et à Thomas Robin à la technique. Les grandes lignes météo de demain pour refermer cette édition. Temps gris et humide dans le nord-ouest du pays, du soleil sur une bonne partie du sud. Température minimale comprise entre 2 et 7 degrés au nord, entre 7 et 9 sur le pourtour méditerranéen. 12 départements restent placés en vigilance orange inondation.